Francis Chateau-Renaud, vous êtes sociologue et directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes l'un des créateurs de la notion lanceur d'alerte en France et vous intervenez ce soir pour un débat après la projection du film Promised Land. Déjà, un sociologue questionne la réalité, élabore un travail de recherche orienté sur une problématique. Vous, qu'est-ce qui vous a amené sur le terrain des lanceurs d'alerte ?
Moi, mon problème à l'époque, c'était de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un est crédible ou pas quand il dit quelque chose. C'est si je dis par exemple, en fait le lanceur d'alerte c'est ça, est-ce que vous allez me croire ou est-ce que vous allez dire ça y est, il est parti dans des trucs, des élucubrations académiques, ça n'a aucun sens, etc. Donc c'est le problème de la crédibilité et de l'efficacité, de l'effet de cette crédibilité sur l'action publique. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un dit, vous savez, on est en 1987 par exemple, et quelqu'un dit, vous savez, actuellement il y a un processus de réchauffement de la planète. Les gens le regardent en disant, wow, c'est quoi ces histoires encore? Ça, c'est vraiment un truc de climatologue, tu veux des budgets pour faire des recherches. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis finalement, il y a eu un été extrêmement chaud aux États-Unis. Et les gens se sont dit, en fait, les données qui sortent ne sont pas absurdes. C'est vrai que les mesures montrent quand même qu'il y a une tendance. On dirait en 87, hein, ça fait quand même combien? Ça fait 30 ans. Et donc, vous avez quelqu'un qui pose un problème de crédibilité. Et vous voyez que le GIEC, donc le groupe des climatologues internationaux qui ont porté la question de l'alerte climatique, ont mis quand même 20, 25, 30 ans pour essayer de convaincre l'ensemble des États de la planète, des gens, des médias, etc. Et que ce n'est pas complètement gagné encore, vous avez encore des climato-sceptiques, bon, minoritaires, mais enfin assez puissants parfois. Et donc la crédibilité, pour moi, c'est un enjeu majeur. Qui me motive? Alors je travaille sur l'argumentation, sur la question de la preuve, sur la question de la perception. Qu'est-ce que c'est que percevoir quelque chose? Qu'est-ce que c'est que croire quelque chose? Qu'est-ce que c'est qu'influencer les autres? Qu'est-ce que c'est que de créer des dispositifs fiables dont on peut dire qu'ils vont fonctionner en toute confiance? Par exemple, un nouveau réacteur qui n'aura pas d'accident, avec une certitude, etc. Est-ce que c'est crédible, par exemple? Voilà, je travaille sur tous les cas comme ça où il y a un enjeu de crédibilité.
Et donc ça vous a amené à créer en France cette notion de lanceur d'alerte avec Didier Torny à la fin des années 90. La société changeant constamment, est-ce que vous voyez le lanceur d'alerte d'aujourd'hui comme celui que vous aviez imaginé à l'époque ?
C'est une très bonne question. Non, il a énormément évolué. D'abord parce qu'entre-temps, l'Internet s'est déployé. Que les questions d'alerte se sont multipliées, sont devenues de plus en plus grosses et énormes. On a parlé du climat, on peut parler de la biodiversité. Aujourd'hui, on peut parler d'alerte, si vous voulez, de la Corée du Nord, de ce que vous voulez, du terrorisme. Et donc, en fait, il y a une multiplication des questions, etc. Et donc, les formes d'alerte ont beaucoup évolué. L'affaire Snowden, par exemple, n'était pas possible dans les années 90. Il fallait attendre qu'il y ait le 11 septembre, qu'il y ait la guerre en Irak, qu'il y ait cette espèce de paranoïa des services de renseignement américains, etc., puisqu'ils avaient laissé passer quelque chose d'énorme. Et donc, cette espèce de mise sous surveillance, il fallait en plus des instruments pour surveiller. Et même le type Snowden, c'est-à-dire le geek, le jeune mec qui rentre dans une boîte comme ça, qui va faire du business finalement avec de l'information, c'est une nouvelle génération qui arrive avec de nouveaux problèmes. Et donc, ça se déplace constamment. Et c'est pour ça qu'actuellement, un des gros enjeux, c'est plus du tout la surveillance, c'est plus tellement l'affaire Snowden, c'est les questions de corruption. C'est tout le travail que fait par exemple une association comme Anticor ou tous ces acteurs qui vont essayer d'identifier des endroits où il y a véritablement violation en fait du droit public par le fait d'utiliser des failles des systèmes de contrôle fiscaux, soit de détourner des fonds, soit de faire de l'influence et d'intervenir sur des marchés, etc., etc.
Vous parliez du changement des questions qui sont abordées dans les lancements d'alerte justement. De quel moment, à partir de quelle étape, on peut considérer qu'une information motive une alerte finalement? Est-ce que c'est la gravité? Est-ce que c'est la dangerosité de ces informations?
Alors, c'est vachement intéressant comme question. Ça demande 3 heures pour développer ça. Donc, en gros, si vous voulez, c'est une question de vision du futur. Et c'est pour ça que c'est passionnant. C'est-à-dire qu'un vrai lanceur d'alerte, là j'y vais carrément, c'est quelqu'un qui voit venir des conséquences, des transformations dans le futur proche ou plus lointain. Et plus c'est lointain, plus c'est abstrait. Donc plus c'est difficile d'être crédible pour les autres qui ne vont pas s'intéresser forcément à ce qui passe dans 50 ans. Quoi. Alors, déjà, demain, c'est... Voilà. Et donc il y a tout ce problème de la temporalité en fait, qui est en jeu. Et c'est le premier critère. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le temps d'agir? Est-ce que ça va se produire inéluctablement? Et quel est le délai qu'on a? Quelles sont les chances de trouver une alternative qui va déplacer le problème, qui va permettre d'éviter quelque chose? Pour moi, c'est vraiment la motivation de lancer une alerte, c'est-à-dire je peux encore agir. Je peux encore. Ce n'est pas encore trop tard. C'est le pas encore. C'est un adverbe. C'est une forme adverbiale, comme on dit. C'est des choses aussi bêtes que ça. C'est-à-dire, j'ai encore moyen de faire quelque chose. Je ne baisse pas les bras. Sinon, c'est le fatalisme. Ça peut être une forme de catastrophisme, voire de jubilation cynique sur la fin du monde ou sur la destruction de telle ou telle chose, et qui peut même se nourrir de ça. C'est-à-dire qu'on voit parfois des gens qui sont parfois militants, critiques, qui se réjouissent des mauvaises nouvelles. Ouais, c'est l'oiseau de malheur, comme on dit. Et donc le lanceur d'alerte, c'est l'inverse de ça. Si c'est un oiseau de malheur, il est perdu. Et moi, je vise plutôt des personnages ou des groupes qui vont avoir une vision. Et par exemple, voir effectivement que si on change le système énergétique, on peut faire plein d'autres choses que ce qu'on est en train d'essayer de maintenir désespérément avec un système qui a montré ses limites, par exemple.
Donc on comprend bien qu'une alerte, c'est un signal qui prévient un danger imminent. Donc un lanceur...
Ou à venir.
Un lanceur d'alerte tente donc d'empêcher que des actions nuisibles pour le bien commun se produisent. Alors pourquoi est-ce que son statut est si peu protégé? Enfin, comment sont protégés du coup les lanceurs d'alerte?
Il est peu protégé parce que d'abord, changer le droit, c'est toujours très compliqué. Vous savez que le problème du droit, c'est un puzzle extrêmement lent et lourd à déplacer. C'est-à-dire, vous savez que si vous déplacez une pièce, vous pouvez faire fragiliser l'ensemble de l'édifice. Donc on voit bien, regardez aux États-Unis, par exemple, vous avez une tuerie de masse. Vous avez un gamin qui arrive dans une école, qui vous tue, fait personne dire « Ah, les armes aux États-Unis », etc. Bah oui, mais amendement de la Constitution américaine. Personne ne veut y toucher. Parce que si vous commencez à toucher à cet amendement, vous modifiez la Constitution, et toucher la Constitution, surtout avec un Trump ou un machin, etc., mais c'est de la folie, parce que vous ne savez pas dans quoi vous rentrez. Donc il y a déjà cet aspect-là qui explique que c'est lent, c'est compliqué. Que voilà. Et le deuxième truc, c'est que vous êtes dans des jeux de force et d'influence. Et donc, si vous posez des questions qui fâchent, vous allez déranger des pouvoirs, vous allez déranger des intérêts économiques, des intérêts idéologiques, des intérêts simplement de tranquillité. Et donc, le déni, le fait de « non, on ne va pas parler de ça, ça suffit, la vie est courte, etc. » Prenez l'exemple du fumeur. Encore aujourd'hui, vous êtes obligé de lui mettre des images trash sur les paquets de cigarettes. Pour qu'ils prennent conscience de quoi ? Ceux qui continuent à acheter, ils ne les voient plus, les images. Donc vous avez une espèce d'alerte qui s'est abîmée finalement en mer et qui n'a plus aucune efficacité. Donc il faudrait changer complètement de stratégie. Donc il y a tout le temps à refabriquer en fait notre sens du réel et du possible. C'est Musil qui utilisait cette Musil, Robert Musil, le fameux littéraire autrichien, qui disait l'humain est tout le temps en balance entre le sens du réel et le sens du possible. Entre ce qu'il voudrait faire, ce qui serait possible de faire et ce qui malheureusement est là, qui s'impose à nous. Et donc c'est toujours le jeu de la liberté finalement, moi je pense collective, qui se joue à travers les alertes.
Certains gouvernements ont essayé dernièrement de légiférer sur le mécanisme du lancement d'alerte justement. On s'est rendu compte que ce n'était pas forcément efficace. Est-ce qu'il faut réellement légiférer sur les procédures à suivre quand on est lanceur d'alerte, ou est-ce qu'il faut laisser justement ces lanceurs d'alerte passer par des chemins inhabituels et plutôt inconnus pour que ça arrive et que ce soit efficace finalement?
C'est la deuxième branche que je prendrai, moi. Maintenant, je ne veux pas du tout empêcher les juristes d'essayer d'imaginer un système idéal dans lequel, en fait, les alertes pourraient être véritablement traitées. Mais il faut bien voir que dans lanceur d'alerte, il y a deux choses. Il y a lanceur et alerte. Donc protéger le lanceur, c'est une chose. Protéger l'alerte, c'en est une autre. C'est-à-dire que si l'alerte concerne vraiment l'intérêt général, comme le dit la loi, l'intérêt général, c'est une notion très floue. Le bien commun, le bien collectif, le bien public, vous voyez, toutes ces notions sont compliquées. Hein. L'alerte doit être aidée par d'autres que le lanceur. Des scientifiques, des administrations, des médecins, des collectifs, des institutions, peu importe. Et donc il faut à un moment donné travailler à la séparation du lanceur et de l'alerte. C'est un peu comme un satellite. Vous avez un lanceur et à un moment donné le satellite fait sa trajectoire et le lanceur a fait son travail, il se sépare. Vous voyez, c'est deux modules en fait qui doivent se séparer. Et toute la difficulté, c'est que quand c'est trop personnalisé, ou quand c'est toujours les mêmes groupes qui portent les alertes, au bout d'un moment, il y a une espèce de, pas forcément de paranoïa, mais de tension émotionnelle tellement puissante sur les personnes que ça rend le débat totalement impossible du point de vue d'imaginer des avenirs rationnels par rapport à la question.
Est-ce que la notion de lanceur d'alerte et le processus par lequel passe celui qui alerte est-il intimement lié à la notion de morale? Est-ce qu'il y a une question de morale finalement dans tout ce mécanisme?
Il y a quatre choses. Il y a les valeurs, c'est au quoi les acteurs croient fondamentalement. On a tous des systèmes de valeurs. Il y a les normes, qui sont normalement indépendantes des personnes, c'est des normes, voilà, vous avez des normes sur les bâtiments publics, etc. Vous avez des principes régulateurs, qui sont des choses qui fondent, par exemple, une démocratie, une constitution, etc. Et vous avez des idéologies, ou des utopies même, éventuellement. Donc le problème, c'est que la morale, le terme de morale, ça c'est moi, est problématique parce qu'il est, il cache la forêt quelque part. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de morale, éventuellement c'est un problème d'éthique. Mais je sais que les philosophes ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y en a qui disent que l'éthique est, est supérieure à la morale, que c'est la morale qui est supérieure à l'éthique. Je crois que c'est un débat qui est absolument sans fin. Ils relisent tous Aristote, ils ne le relisent pas évidemment comme il faut, parce qu'Aristote ce n'est que des traductions de traductions de traductions. Et donc on, c'est sans fin. Mais je pense qu'il y a, il y a surtout une question d'éthique, c'est-à-dire d'avoir une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, par exemple. Et en politique, c'est de plus en plus rare. C'est-à-dire qu'on peut, faire des très beaux discours et faire exactement le contraire. Et donc, ce n'est pas éthique. Hein, c'est unethical en anglais. Ça, c'est ça. Et les morales sont tellement diverses qu'on n'arrivera jamais à les mettre en commun. Par contre, on peut construire des normes, on peut construire des principes, on peut tolérer ou admettre les valeurs des autres en acceptant un principe de pluralisme. Parce que c'est le principe de pluralisme qui rend possible d'accepter les valeurs des autres. Et vous voyez, donc il y a toute une architecture complexe. Et c'est vrai que quand les alertes concernent des questions très, justement, décrites comme morales, par exemple, le droit des homosexuels à se reproduire, voilà, typiquement ce genre de sujet, la notion de lanceur d'alerte, on voit bien que là, elle perd un petit peu quand même de sa consistance initiale. Là, on est vraiment sur des trucs, il faut dire les choses. On est dans des querelles idéologiques, dans des systèmes de valeurs, dans la question de comment on pose des normes et des principes sur des choses qui vont varier d'un individu ou d'un groupe à l'autre.